L'exploration du monde vivant dans les profondeurs de la Terre, eh bien c'est le sujet à la une de la science aujourd'hui.
Où est-ce qu'on est ?
Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le centre de la Terre.
On dirait un terrarium.
Un terrarium à des milliers de kilomètres sous l'écorce terrestre.
Il y a décidément beaucoup de monde caché dans les roches terrestres. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invitée, c'est la Une de la Science.
Oui Mathieu, nous sommes avec Bénédicte Ménez, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'équipe de géobiologie de l'Institut de physique du globe à Paris et vous êtes membre du Deep Carbon Observatory. Il s'agit d'une grande collaboration internationale qui depuis 10 ans explore les profondeurs de notre planète. Vous venez tout juste d'atteindre l'un de vos premiers objectifs, estimer l'étendue et la quantité de microbes qui se cachent dans les roches terrestres. Alors il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, plus que ce qu'on attendait.
Oui, les chiffres qui sont annoncés sont relativement considérables puisque ce serait 15 à 23 milliards de tonnes de carbone qui seraient piégées dans ces roches sous forme de micro-organismes, des bactéries, des êtres unicellulaires qui se développeraient là. Et donc du coup, on estime même que ce serait 70 à 80% des bactéries et des archées qui seraient présentes dans la Terre et non pas à la surface.
Mais alors du coup, on parle de carbone, c'est ça ?
On parle, bah oui, puisqu'en fait le vivant est fait de carbone essentiellement, donc on estime leur quantité à l'aide de cet élément.
Et donc vous nous avez dit ce sont des archées, des bactéries, de quelle nature exactement sont ces intraterrestres ? Ils sont vivants ? Ils sont endormis ? On a peut-être, ce sont un peu comme des zombies aussi, on a entendu ça.
Alors c'est vrai que il faut imaginer que dans la roche, il n'y a pas énormément d'espace pour se développer, donc en fait ce sont des petits êtres qui sont dans les pores de la roche et donc ils vont être dépendants des quantités d'énergie qui sont à leur disposition. Donc quelquefois, en fait on appelle cet environnement oligotrophe, c'est-à-dire qu'il est très appauvri en énergie, en source de carbone. Donc la plupart du temps, c'est vrai qu'ils sont souvent en dormance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose pour s'alimenter, donc ils maintiennent juste leur fonction. Mais dès qu'au gré d'un événement volcanique, d'une circulation hydrothermale, dès qu'il y a un fluide qui passe et qui, par chance, leur apporte quoi se requinquer, et bien du coup, ils reprennent une activité.
Et du poil de la bête.
Et du poil de la bête.
Et c'est pas forcément des unicellulaires, il peut y avoir des pluricellulaires aussi.
Oui, on sait que maintenant, la vie en subsurface est habitée par les trois domaines du vivant, donc c'est plus restreint aux bactéries. On a des petits champignons, on a des nématodes, on a des tas d'êtres assez extraordinaires.
Alors, ceux qui sont vivants, ils doivent être fascinants à observer, vous nous en disiez un mot. De quoi est-ce qu'ils se nourrissent ? De la roche, en fait ?
Oui, ils se nourrissent essentiellement de l'énergie chimique qui est libérée lors des réactions entre les fluides qui circulent dans la roche. Ça peut être des gaz volcaniques, des eaux souterraines dans les aquifères. Et donc, c'est ces réactions chimiques qui sont déclenchées, dont profite le vivant pour se développer. Parce qu'à ces profondeurs, vous n'imaginez pas que les rayons du soleil peuvent pénétrer, et donc toute photosynthèse est interdite. Donc ils ne sont absolument pas basés sur cette énergie solaire. Et donc,
pas d'autres moyens.
Pas d'autres moyens.
Donc vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, cette recherche, cette exploration Deep Carbon Observatory. C'est un peu une aventure à mi-chemin entre 20 000 lieues sous la mer et voyage au centre de la Terre, en référence à Jules Verne évidemment.
Et bien cette initiative internationale, elle a été lancée il y a 10 ans parce qu'on a fait le constat qu'on connaissait très peu de choses sur le carbone profond. Donc là, dans ce qu'on a fait, ça concerne les micro-organismes, mais il y a beaucoup d'autres scientifiques qui ont étudié toutes les formes du carbone dans la Terre profonde. Et donc du coup, de ce constat-là, on a essayé d'explorer. Et c'est comme finalement, on s'est rendu compte qu'on connaissait plus de choses sur la vie extraterrestre ou nos planètes qu'on explorait dans l'espace que finalement notre Terre profonde sous nos pieds. Donc
c'est des dizaines d'équipes et des centaines de forages partout au sud, au nord, au fond des mers, sur Terre.
Oui, on a essayé d'exploiter un petit peu, enfin je dis on, mais en fait c'est tous mes collègues
de la collaboration.
On a profité de toutes les opportunités, donc que ce soit des forages océaniques, des mines profondes en Afrique du Sud qui permettaient d'aller explorer à 3 km, des pompages profonds où là on n'avait que les eaux et pas la roche, mais tout a été bon pour en savoir plus.
Est-ce qu'on est capable de dater les formes de vie justement découvertes dans les roches ?
Oui, alors c'est souvent accompagné justement, la grande question c'est quel âge ont ces micro-organismes et donc du coup, on essaye de dater les eaux dans lesquelles ils vivent et on a des eaux très superficielles qui circulent rapidement à la surface de la Terre et qui là sont des eaux très jeunes, mais dès qu'on va un peu plus profond, on est face à des eaux anciennes et ça, les scientifiques ont des méthodes pour dater et donc ils savent que les écosystèmes qu'on y trouve sont aussi vieux que l'eau et quelquefois plusieurs de dizaines de millions d'années.
L'un des points aussi qui va vous intéresser avec cette première salve de découverte sur la vie intraterrestre, c'est de comprendre comment cette vie dont on n'avait pas conscience, influence les cycles de la Terre. Ce qui se passe en surface est influencé par ce qui se passe en profondeur et vice-versa ?
Oui, tout à fait. En fait, ils sont là comme une sorte d'écran et entre la Terre profonde et les enveloppes externes qui regroupent les atmosphères et les océans. Et en fait, c'est un peu le lien, le moteur qui va impacter sur la composition chimique de l'atmosphère au cours du temps, celle des océans.
On va à quelle profondeur justement avec ces micro-organismes ?
Alors, pour l'instant, donc, les preuves qu'on a, c'est 5 km pour les continents et 3 km environ au fond des océans, donc sous la profondeur d'eau. Et en fait, ce qui va limiter leur développement, ça va être essentiellement la température. Donc, on ne va pas trouver de micro-organismes au-delà de 120 degrés, mais tant que la température ne dépasse pas 120 degrés, vous pouvez penser avoir du vivant qui se développe.
Alors là, on parlait de notre planète Terre, mais il y a aussi l'idée de pouvoir donner des indices pour ceux qui vont partir explorer d'autres planètes, typiquement Mars. Ça les aidera à savoir ce qu'ils doivent chercher, au fond, des formes de vie qu'on n'imaginait pas.
Oui, tout à fait. C'est des nouvelles cibles sur Mars. À la surface de Mars, on sait maintenant que c'est extrêmement sec. On n'y voit pas une trace de vie. Et on imagine que quand Mars a perdu son atmosphère, en fait, toute l'eau liquide a été happée dans les profondeurs. Et si on doit trouver des formes de vie, passées ou actuelles, elles doivent se retrouver avec cette eau profonde qui a été enfouie donc dans les profondeurs de Mars.
Merci beaucoup, Bénédicte Ménez, pour cette découverte de la vie intraterrestre. On n'emploie pas souvent ce terme-là. En tout cas, grâce à vous, on va pouvoir maintenant l'utiliser. Et ces recherches sont absolument passionnantes. Merci à vous, Caroline, également. Et bonne année, d'ailleurs, on en profite. Tous les jours, on va le faire cette semaine. Merci beaucoup.
Merci.
Allez, dans un instant, on parle volcan.